Chers frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, lorsque Jésus formule cette prière, c'est après le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples. Quelques instants avant son arrestation, sa condamnation et sa mise à mort. Quand il dit que l'heure est venue, c'est de cela dont il parle. Et l'heure présente. Ce moment où il formule cette prière est l'heure du bilan. Sa prière, comme vous l'avez entendu, lui permet de porter un regard rétrospectif sur ce qui a été vécu jusque-là. Et quand nous prenons soin d'écouter, de comprendre ce qui est dit, nous constatons que cette prière, qui est donc un regard rétrospectif, n'est pas pour autant un rapport d'activité. Il ne fait pas l'inventaire de ce qui a été réalisé. Il relie son ministère par rapport à l'objectif qui était la raison d'être de sa vocation, à savoir glorifier Dieu. Nous pouvons dire dans une certaine mesure que notre assemblée de cette heure est analogue à ce que vit Jésus. C'est le moment du bilan. La situation est comparable, quoique, pour ma part, j'espère que dans quelques instants, cela ne finira pas par une crucifixion. Mais vous êtes maître. En tous les cas, ce que je retiens de cette analogie, c'est qu'elle pourrait nous inciter à ne pas chercher à nous justifier par nos œuvres, par nos réalisations. En revanche, il me semble précieux de s'interroger pour savoir si notre vie d'église est bien orientée, si elle est effectivement tendue vers ce qui devrait constituer notre vocation de secteur centre-ville. Et cela implique bien sûr de savoir quelle pourrait être notre vocation de secteur centre-ville. À la manière de Jésus qui savait pourquoi il était là, glorifier Dieu. Cela implique évidemment de se mettre d'accord sur le sens de notre vie paroissiale et sur les personnes auxquelles cette vie paroissiale est destinée, autrement dit, à quel public s'adresser. J'ai eu l'occasion, en conseil de secteur, d'aborder la question de ces personnes, du public, dont nous pourrions avoir la responsabilité, savoir quels seraient les disciples qui nous sont confiés par Dieu. Ce matin, j'aimerais aborder le sens de notre vie d'église. Ce qu'elle doit viser, comme Jésus le faisait régulièrement lorsqu'il se retirait, lorsqu'il faisait un pas de côté, lorsqu'il se mettait à l'écart, échappant à la foule qui voulait en faire un roi, prendre le temps de la prière, comme il le fait de manière ultime à ce moment-là. Glorifier Dieu ne serait-ce pas tout simplement notre vocation communautaire. Et le faire dans le cadre où il nous est donné de nous exprimer. Glorifier Dieu pour Jésus, cela consiste à faire accéder chacun à la vie éternelle. C'est l'expression qu'il emploie dans ce passage. Et tout d'abord, cela consiste pour Jésus à faire comprendre ce qu'est la vie éternelle. Ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Et en constatant que Jésus parle de la vie éternelle comme d'une chose ayant été offerte aux disciples de leur vivant, nous comprenons que la vie éternelle n'est pas à comprendre comme une vie après la mort biologique, mais une vie d'ores et déjà disponible, accessible. La vie éternelle, ce n'est pas l'immortalité, c'est-à-dire une quantité de temps illimité. La vie éternelle, c'est une vie dont la qualité est infinie. C'est cela que j'aimerais vous montrer ce matin. La vie éternelle, dit Jésus, c'est de connaître Dieu et de connaître l'envoyé, Jésus-Christ. C'est au verset 3. Vous voyez, cela signifie que la vie éternelle n'est pas une sorte de molécule qui nous permettrait de conserver une éternelle jeunesse, de ne prendre aucune ride, de pouvoir courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, ni quelque chose qui régénérerait nos cellules et nous empêcherait finalement de mourir. La vie éternelle, dans les évangiles, n'est pas l'abolition de la mort. Jésus, lui-même, va mourir dans quelques heures. La vie éternelle, qui est une connaissance du vrai Dieu, signifie que notre vie n'est plus comprise en fonction de la mort. Au sens où la vie, ce serait une non-mort. Au sens où la vie, ce serait tout ce que nous mettons en œuvre pour échapper à la mort. La vie éternelle signifie que notre vie est comprise en fonction de ce que Dieu signifie. Et la vie éternelle, c'est la vie lorsqu'elle est pensée en fonction de Dieu et non plus seulement en fonction de la mort. Lorsque nous imaginons notre agenda, non pas en nous disant « il faut se dépêcher de vivre » parce que nous n'avons plus pour longtemps, mais il est important de vivre ceci et cela parce que c'est ce qui va donner du sens à notre vie et la porter à sa plénitude. La vie devient éternelle quand elle n'est plus la recherche un peu anxieuse de tous les moyens pour éviter la mort, mais la recherche de tous les moyens pour la propulser à la hauteur de ce que Dieu désigne. Et cela, je crois, est essentiel pour comprendre ce que peut être une vie d'église. Car évidemment, dans une église extrêmement minoritaire comme la nôtre, nous pouvons être tentés de vouloir faire de notre vie d'église une sorte d'arsenal de moyens pour échapper à la mort, faire en sorte d'éviter que le protestantisme meure, comme si Jésus était venu pour que vienne le protestantisme. Vouloir sauver l'Église de la mort, vouloir éviter qu'elle disparaisse, vouloir éviter son effacement du paysage religieux, ce serait penser notre vie d'Église en fonction de la mort. Il est essentiel de comprendre que nous devons penser notre vie, et notamment notre vie d'Église en fonction de la vie. Non pas que faire pour sauver notre vie, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra en vérité. Mais pensez ce qu'il est juste de vivre. Et ne pas avoir peur de la perdre. Car quiconque perdra sa vie à cause de Jésus aura la vie éternelle. Non pas être une église qui a peur de mourir et qui s'agit un peu frénétiquement pour éviter la noyade. Mais une église qui décide de vivre selon ce que l'Évangile nous fait miroiter, nous fait intuitionner, et d'organiser notre agenda paroissial en fonction de cela. La vie devient éternelle quand elle cesse d'être pensée en termes de quantité et qu'elle est pensée en termes de qualité. Penser en fonction de la vie et pas en fonction de la mort. C'est le grand sujet abordé notamment par Anna Arendt, qui avait été à l'école du philosophe Heidegger, un grand connaisseur de l'être. Penser l'être. Être pour la vie et non être pour la mort. La vie d'Église, le sens d'une présence ecclésiale au cœur de la cité, comme c'est le cas pour nous, pourrait être de faire prendre conscience d'une vérité qui peut échapper, tant elle n'a rien d'évident. C'est que notre vie, lorsqu'elle est orientée vers Dieu, lorsqu'elle se nourrit de Dieu, lorsqu'elle s'abreuve de l'Évangile, devient éternelle au sens d'une qualité que rien jamais ne pourra altérer. La vie éternelle est une connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, et donc une vie qui est vécue selon ce que Dieu désigne, et selon ce que Jésus-Christ a manifesté, comme ce texte le dit. Et la théologie nous permet de penser quels sont les attributs, quelle est l'économie déployée dans la vie, pour que ces attributs, nous les attribuions aussi, pour que cette économie soit notre économie. Et du coup, penser la vie en fonction de la vie, la lumière de l'Évangile. C'est considérer, par exemple, qu'il s'agit de vivre selon une logique de la grâce et non selon une logique de l'équivalence. Qu'il s'agit d'aimer non pas ceux qui sont aimables, mais ceux qui se présentent sur notre route. C'est une logique qui, lorsqu'elle veut la paix, prépare la paix et non la guerre. Et si jamais le tintement des armes commence à produire un bruit sourd à nos oreilles, alors nous savons qu'il est encore possible de présenter un autre visage face à une agression. Cet évangile, cette économie, c'est une vie qui se préoccupe du malheureux qu'elle ne connaît pas, et pourtant qu'elle reconnaît comme un autre semblable. Nous pourrions, à l'envie, continuer cette liste qui nous dit ce que signifie une vie portée à sa plénitude parce qu'elle est éclairée de la lumière de l'Évangile. Tout ce qui est vécu selon l'espérance de Dieu ne nous posera jamais de regret. Et au fond, nous pouvons prendre cela comme critère. Vivre de manière à ce que nous ne suscitions aucun regret, ni pour nous, ni pour les autres. Vivre parce que ce que nous faisons, ce que nous vivons, est un bien absolu, que nous n'avons pas envie d'effacer, un bien absolu qui demeurera à jamais. Et le philosophe Heidegger, qui n'avait pas toujours des formules très compliquées, disait que c'est cela la vie éternelle. Ce sont des grains d'éternité, ces moments d'absolu, ces moments qui ne nourriront jamais aucun regret. Les mathématiciens parleraient de nombres premiers, ces nombres indivisibles, ces nombres que l'on retrouve même lorsqu'ils ont été multipliés à d'autres nombres. Quelque chose qui est essentiel, indestructible. Je ne dirais pas atomique parce que nous savons que nous pouvons maintenant casser les atomes, mais ce qui est le cœur même de l'existence. Lorsque Jésus dit qu'il a achevé l'œuvre du Père, selon la traduction que nous avons lue, il vaudrait mieux traduire le verbe téléio par accomplir. Jésus a vécu en se donnant Dieu pour horizon. Il n'a pas un rapport narcissique à la vie. Il n'est pas obnubilé par son propre salut. Au fond, nous pouvons dire, visons Dieu et l'intendance se suivra. Non pas parce que l'intendance est toujours à la traîne, mais c'est parce que nous trouverons les moyens de vivre selon cet idéal que l'Évangile désigne. Jésus a vécu en se donnant Dieu pour horizon. Et ce qu'il a fait a permis de poursuivre l'œuvre créatrice de Dieu. Jésus a accompli l'œuvre créatrice de Dieu. Pourquoi faire moins? Pourquoi notre vie d'Église devrait-elle se contenter de n'être que la muséographie de ce qui se fit autrefois? Pourquoi ne pas nous-mêmes continuer cette œuvre créatrice? C'est ce qu'ont bien compris les disciples de Jésus. Il ne s'agissait pas d'embaumer le corps, qui de toute façon avait échappé au moment de Pâques. Il ne s'agissait pas de figer l'amitié qui s'était nouée pendant ces quelques années de ministère. Il s'agissait de prolonger cette mission que Jésus avait incarnée et qu'il avait manifestée de telle manière que notre génération puisse se lever, prendre le flambeau et aller. La plupart des disciples sont devenus apôtres eux-mêmes. Apôtres pour faire comprendre aux personnes que nous sommes appelés à penser notre vie de manière qualitative plutôt que quantitative. Nous sommes invités à faire en sorte que notre vie ait du sens avant toute autre chose, et qu'ainsi nous ne nourrissions pas de regrets au soir de notre vie, à l'heure du bilan en assemblée de secteur ou en assemblée générale. Alors, notre vocation paroissiale ne serait-elle pas d'arracher la vie de nos contemporains au non-sens et au non-être, de manière à ouvrir chaque existence à ce que l'Évangile nomme, de manière religieuse, la vie éternelle.